Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 38e numéro de Marie Nostrum, qui est réalisé avec la collaboration essentielle du MAG et de Fabrice, et en partenariat avec le service de communication de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix et sa responsable Sylvie Laurence. Cette émission a été enregistrée au Musée de la Vieille Charité à Marseille, à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie 2019.
C'est une initiative donc, qui a été prise par l'Institut national de recherche archéologique préventive.
Peut-être en dire un petit mot sur le rôle de cette structure. On parle de protection du patrimoine, notamment quand il y a des grands travaux de mise en place au niveau national ou européen, quand on doit faire des routes, quand on doit faire des nouvelles rails, par exemple. L'aménagement du territoire, en règle générale, en lien avec, il me semble, les différents conseils municipaux, régionaux, départementaux, ou les grands travaux nationaux.
Voilà, les communautés de communes, les collectivités territoriales. Donc en fait, l'INRAP assure la détection et l'étude du patrimoine archéologique en amont des travaux d'aménagement du territoire. Donc dès lors que vous avez un aménageur de terrain, quel qu'il soit, public ou privé, qui dépose un permis de construire auprès d'un service de la collectivité territoriale, se met en place une sorte de procédure où l'on décide de faire un diagnostic.
Dans quel but ?
Dans le but de vérifier que le patrimoine archéologique, s'il y a patrimoine archéologique, vestiges enfouis dans le sol ne soient pas détruits en fait,
et qu'il y ait,
puisque une des missions de l'INRAP, c'est de préserver le patrimoine archéologique pour pouvoir l'étudier, non pas effectivement de stopper les chantiers, mais simplement d'agir en coactivité de façon à pouvoir enrichir aussi par l'étude de ce patrimoine archéologique la connaissance historique du territoire concerné. Voilà.
Connaissance historique, prévention contre la destruction lors
Tout
de nouveaux
fait.
Travaux. Donc c'est l'une des structures les plus importantes au niveau national de
oui.
la préservation du patrimoine.
Voire européen aussi. C'est une structure, donc c'est un opérateur public de l'État qui dépend et qui est sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du ministère de la Culture, puisque nous avons beaucoup d'archéologues qui collaborent aussi dans des UMR, ce sont des unités mixtes de recherche, et qui travaillent en étroite collaboration, bien évidemment, avec le CNRS.
Donc avec les chercheurs, avec les doctorants.
Tout à fait, effectivement, chercheurs et spécialistes de disciplines archéologiques et de différentes périodes, puisque l'Institut couvre toutes les périodes de la préhistoire jusqu'à nos jours.
Pédagogie.
Diffusion de la culture scientifique, bien évidemment. Valorisation de cette culture scientifique auprès de la communauté scientifique, mais aussi auprès du grand public, puisque le but est de partager cette connaissance et de partager le savoir et les données scientifiques avec le plus grand nombre. Et donc, pour raccrocher évidemment avec les Journées nationales de l'archéologie, c'est vraiment ces journées sont vraiment un moment privilégié de rencontre entre tous les acteurs de l'archéologie, les archéologues et le grand public. Le grand public peut venir à la rencontre des archéologues qui peuvent leur expliquer leur métier, leur passion et ainsi montrer par des activités qui peuvent être ludiques, qui peuvent être soit des reconstitutions, il y a des reconstitutions aussi, mais des ateliers, je vais vous en parlerez plus tard, d'archéozoologie, de carpologie, qui sont des disciplines vraiment affinées par les archéologues qui ont au fil du temps, au fil de leur expérience et de leur savoir scientifique et de leur fouille sur les terrains qui ont pu effectivement avoir toute cette précision et tout ce savoir-faire et pouvoir retranscrire leur expertise et enrichir justement la connaissance du patrimoine.
Alors peut-être un petit mot sur ce lieu où nous nous trouvons, dans un village qui permet de rencontrer énormément de spécialistes. Peut-être un nouvel intervenant, Sylvie ?
Oui, alors je propose de donner la parole à Stéphane Abellon qui nous accueille ici. Il est archéologue, il est médiateur au musée d'archéologie de Marseille. Et voilà, Stéphane, peux-tu nous parler de ce magnifique lieu ?
Eh bien oui, alors déjà je suis très heureux de pouvoir participer à cette émission. Alors je représente le musée d'archéologie et notamment son conservateur, Madame Muriel Garçon, qui s'excuse de ne pouvoir être présente aujourd'hui. Donc elle m'a demandé de la remplacer, ce que je fais avec plaisir. Donc effectivement, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir cette année, dans le cadre des journées de l'archéologie, tous ces événements assez importants et accueillir des entités importantes, au premier lieu desquelles l'INRAP, mais aussi les différents instituts de recherche basés pour l'essentiel à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, en particulier le Centre Camille Julien et une de mes collègues ici présentes, et l'Olympia, oui, tout à fait. Donc Laetitia Cavassa, avec qui on a partagé de nombreuses aventures archéologiques, en Italie en particulier. Et effectivement, donc le musée a aussi pour vocation d'accueillir le plus grand nombre de publics, quel qu'il soit. Et on a eu la chance de pouvoir retravailler un nouveau parcours archéologique, un parcours de 6000 ans, à partir des collections dont nous disposons, collections absolument exceptionnelles, qui permettent donc d'effectuer un voyage de plus de 6000 ans, partant des rivages de la Mésopotamie et s'achevant à l'Italie impériale, en fait, donc l'Italie romaine en particulier, passant par le monde phénicien, le monde grec, dans son sens large. Hein. Parcours qui a permis de mobiliser de nombreux chercheurs. Alors le service archéologique de la ville de Marseille, avec Emmanuel Molinaire et Lucien-François Gantès. On a aussi l'expographe qui a pu réaliser, habiller, on va dire, ce nouveau parcours, la salle, et tout ce lourd travail de restauration, donc M. Pierre Bargin. Et je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus par rapport à ce nouvel aménagement.
Antiquité grecque, romaine, donc et Proche-Orient, département aussi, antiquité égyptienne, j'ai lu aussi, des travaux qu'on peut retrouver aussi sur Internet pour le grand public,
alors,
pour
les
auditeurs
public,
qui nous écoutent, qui n'ont pas la chance de venir sur place.
Sur le site Internet de la ville, il y a effectivement une petite présentation succincte de nos collections. Il y a la possibilité aussi de pouvoir les aborder par les différents catalogues qui valorisent cette collection et qui permettent de découvrir certains objets avec des focus en particulier sur des œuvres remarquables. Mais il est évident que pour pouvoir bien apprécier la chose, pouvoir se rendre in situ. Alors c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans. Le premier dimanche de chaque mois, les musées municipaux sont gratuits, ce qui permet d'accueillir un nombre conséquent de visiteurs. Et on organise aussi, bien évidemment, c'est le cas dans le cadre des journées de l'archéologie, mais c'est aussi dans le cadre tous les week-ends, des visites commentées pour pouvoir appréhender effectivement ces collections.
Donc peut-être parlez-nous de votre métier, les coups de cœur, alors, les grands événements, parce que je crois que vous êtes un grand voyageur, vous avez participé à beaucoup de découvertes à travers le monde.
C'est ma formation première, c'est mon métier. Mais je travaille depuis 2013 en tant que médiateur culturel dans les musées de Marseille, en particulier auprès du musée d'archéologie, mais également du musée d'histoire de Marseille et du musée des docks romains.
Donc et vous participez au montage d'autres expositions avec les collègues.
Voilà, à la réalisation d'autres expositions et à la présentation des fonds qui sont exposés dans ces différents musées, tout à fait.
Quelques découvertes au niveau mondial qui vous ont marqué ?
De fouiller des sites assez remarquables, prestigieux. Alors avec ma collègue Laetitia, mon amie même Laetitia, on a fouillé pendant de très longues années sur le site de Cum, qui est la plus ancienne colonie grecque en Italie méridionale. J'ai également pu fouiller sur le Mont Palatin avec l'École française de Rome et participer à une découverte exceptionnelle, à savoir la Cena Rotonda, donc la salle à manger tournante construite par l'empereur Néron. Donc une œuvre une découverte exceptionnelle, probablement pour l'époque romaine la plus importante dans les 50 dernières années, et découverte que l'on doit à Madame Françoise Villedieu, directrice de recherche émérite au CNRS. Et j'ai également, toujours par le biais de l'École française de Rome, pu participer, entre autres, à la fouille de du stade de Domitien, donc place Navone, dans les caves du bâtiment qui est réservé à l'accueil des boursiers et des chercheurs qui se rendent à Rome pour étudier au Palais Farnèse.
Des travaux donc qui durent combien de temps à chaque fois vous restez sur place?
Alors ça dépend, ce sont des missions.
Un an,
oui, un an. Alors sur CUM, j'y ai fouillé plus de 7 ans, en étant fixe pratiquement 3 années consécutives. Dans le cadre des missions à Rome et autres, c'est plutôt des missions temporaires, on va dire, des contrats d'un ou deux mois, donc des contrats locaux, en fait, hein, donc contrats italiens, mais financés par le ministère de la Recherche le CNRS.
D'accord, donc c'est vraiment un travail international avec
des
structures à l'étranger, en France, et des chercheurs
tout
du monde
entier.
Tout
à fait, c'est une collaboration à chaque fois. Hein, la France est représentée en Italie, c'est une collaboration avec le gouvernement italien.
Avec là aussi des travaux, des résultats, des bilans qu'on peut consulter via des plateformes sur Internet.
Bien sûr, alors très régulièrement, l'école publie, l'école française de Rome, l'école française d'Athènes, le centre Jean Bérard, publie très régulièrement, dans le cadre d'articles ou de monographies, les résultats de ces travaux, bien évidemment, qui sont accessibles au plus grand nombre.
Merci.
Je vous en prie, merci à vous.
Petite virgule musicale et on continue au sein de ce plateau. Le plateau, toujours en direct de Marseille, à la Vieille Charité, où se trouvent de nombreux chercheurs, de nombreuses structures qui participent à ces journées nationales de l'archéologie, avec la MMSH, qui est le troisième partenaire, représenté par Sylvie Laurens. Merci d'être encore avec nous pour nous présenter beaucoup d'intervenants qui vont nous expliquer leur travail, les principales informations aux éditeurs de Radio Zenzine.
Oui, parce qu'en effet, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme est partenaire des Journées nationales de l'archéologie de Marseille depuis 2014. Hein. Voilà, c'est le résultat d'un partenariat tripartite. Et nous sommes particulièrement heureux de cette collaboration. Merci encore à l'INRAP d'être venu nous faire cette proposition en 2014 et qui perdure aujourd'hui. C'est donc notre sixième édition. Et alors, c'est l'ensemble des laboratoires d'archéologie de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme qui participent. Je le rappelle, cette maison rassemble 11 laboratoires, dont 5 spécifiquement dédiés à l'archéologie.
Alors, peut-être rappeler pour les auditeurs les principaux intervenants des unités de recherche associées, dont le laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique et le centre Camille Julian, l'institut de recherche sur l'architecture antique, le laboratoire d'archéologie et moderne en Méditerranée, l'Institut de recherche sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM, et puis les partenaires principaux, co-organisateurs, donc l'INDRAP, on a dit la ville de Marseille, les musées de Marseille et le Centre de la Vieille
voilà.
Charité.
Ce que tu viens de citer là, ce sont les opérateurs de la MMSH et, et leurs partenaires dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie. Mais le périmètre de cette maison, c'est la Méditerranée. Ce sont les études méditerranéennes. Hein. Elles rassemblent 11 laboratoires, notamment des laboratoires de sociologie, d'ethnologie, d'anthropologie, d'histoire contemporaine, de géographie. Voilà. Mais évidemment, les Journées nationales de l'archéologie, c'est l'occasion exceptionnelle chaque année de rencontrer, hein, pour le public, c'est vraiment une occasion unique d'aller rencontrer les acteurs de l'archéologie que sont les chercheurs en archéologie, qu'il s'agisse de chercheurs confirmés ou de chercheurs en formation, notamment les doctorants. Et c'est à eux, je pense, voilà, que nous pourrions donner la parole parce qu'ils ont vraiment cette passion de la transmission et ils nous concoctent des ateliers assez extraordinaires que j'invite le public à venir découvrir encore demain.
Alors autour de nous, on a la chance d'avoir des chercheurs. Justement, tu nous présentes la première intervenante ?
Oui, avec plaisir. Alors, il s'agit d'Estelle Herscher. Donc, Estelle Herscher dirige un laboratoire qui est dédié à la préhistoire. Je laisse Estelle se présenter elle-même.
Le LAMPEA, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, le LAMPEA, c'est le laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique. Donc, nous sommes l'une des 5 structures qui pratiquons notre cœur de métier autour de l'archéologie. Notre cœur de métier quotidien, c'est de s'intéresser au mode de vie des populations anciennes et préhistoriques, dans leurs composantes environnementales, culturelles, mais également biologiques.
Alors, j'ai lu les populations holocènes, peut-être un petit peu.
Oui, alors holocène, c'est tout ce qui va toucher le quaternaire. Donc je peux dire un petit mot sur la chronologie. Donc on s'enracine dans des thématiques qui vont du paléolithique inférieur jusqu'à ce qu'on appelle la préhistoire récente. Donc la fin du néolithique jusqu'à l'âge du bronze. Et en termes de territoire investi, on est principalement en Europe, mais également en Afrique, d'où notre petite particule Europe-Afrique. Également des problématiques de recherche dans le Caucase, également dans le Pacifique. Donc aujourd'hui, je vais peut-être centrer directement le débat sur les ateliers qui sont présentés et qui sont entièrement animés par les doctorants de l'équipe, que je tiens d'ailleurs à saluer pour leur investissement et leur dynamisme et leur créativité. Donc je vais vous parler tout de suite d'un des ateliers qui me touche plus particulièrement puisque ça touche mes propres problématiques de recherche, donc qui sont la reconstitution des pratiques alimentaires dans le passé et comment à partir des squelettes qu'on découvre dans les sites archéologiques il est possible de restituer cette alimentation. Donc c'est l'atelier qui s'intitule « Nous sommes ce que nous mangeons ». Et en fait, on invite donc, alors c'est plutôt un atelier qui est dédié aux enfants, et on invite les enfants à nous parler de ce qu'ils mangent et de leur montrer comment le squelette, il enregistre les différentes caractéristiques de l'alimentation. Et en fait, c'est cette particularité qui nous intéresse particulièrement lorsque l'on s'intéresse à l'archéologie, qui est à partir d'un squelette et en analysant son contenu chimique d'en restituer les tendances alimentaires.
Réussir à savoir quelle alimentation...
Alors, les tendances alimentaires qu'on va pouvoir restituer...
Les individus disparus.
Oui, exactement. Donc comment les restituer ? Alors à partir de différents marqueurs. Donc nous on travaille sur des marqueurs isotopiques, le carbone, l'azote, pour en citer les plus traditionnels. On les dose sur la fraction organique de ces ossements, que l'on appelle le collagène, et ils vont nous donner des informations sur des tendances plutôt végétariennes ou plutôt carnivores de l'alimentation, ou encore sur une composante, une contribution des ressources marines. Donc ce sont des thématiques qui sont évidemment développées au laboratoire. Et je vais principalement citer le travail des doctorants, puisque c'est eux qui sont... qui sont mis en lumière, en tout cas dans le cadre de ces journées. Donc tout d'abord, Marie Linglin, donc, qui débute une thèse sur la reconstitution de l'alimentation d'une population de Lyonnais. Cette population de Lyonnais, elle est datée de l'époque moderne, et donc c'est à partir de marqueurs traditionnels, de carbone, azote, mais pas seulement, également à partir du soufre, également à partir de strontium qu'on va restituer l'alimentation, également quelques bribes de la mobilité de ces populations. Et ensuite, le travail de Sarah Bernardini, qui débute également une thèse, et qui travaille sur l'alimentation des populations de l'âge du cuivre dans la péninsule italienne.
Alors, c'est un atelier très ludique, donc pour les enfants notamment, avec l'utilisation de la pâte à modeler.
Oui, c'est-à-dire qu'on les invite à partir de ressources alimentaires que l'on a choisies, donc plutôt des végétaux, donc qui illustrent les légumes, les fruits qu'ils peuvent consommer, également la viande, ou également les ressources marines. On essaye, en les questionnant, en les invitant à prendre quelques quantités de ces ressources alimentaires et de les mettre dans des petits modèles qui reconstituent en fait leur squelette. Et pour leur montrer qu'on est en fait une mosaïque de ces différentes ressources alimentaires, et de voir, ce qui est intéressant de voir, c'est comment eux-mêmes ont une perception de leur propre alimentation et combien ils vont plutôt consommer de ressources qui vont être de viande ou plutôt des ressources marines. Donc ça, c'est un jeu assez intéressant.
L'alimentation, la santé des populations, c'est des thèmes qui sont abordés lors de ces nouvelles rencontres sur l'archéologie, spécialement cette année, hein.
Alors là, oui, là, l'atelier est vraiment sur les composantes alimentaires et comment vont se structurer les modes alimentaires.
C'est l'osmose avec le thème de l'année, donc, du coup. Les différents intervenants qui sont autour de la table, on a Laurine Vielle, coordinatrice d'atelier, comment
ça,
construire
un
dolmen, un atelier qui est proposé aussi aujourd'hui dans le cadre de ce village. Peut-être en dire un petit mot.
La parole à Laurine, donc, qui est une des doctorantes du LAMPEA, qui va vous présenter l'atelier qui traite de cette thématique.
Merci.
Thank you.
Laurine Vielle, donc bonjour.
Bonjour.
Alors parle-nous un peu de cet atelier. Je suis donc étudiante en quatrième année de thèse en archéologie, ethnologie, préhistoire, avec un sujet de doctorat qui est la parure du néolithique final du sud-est de la France. Technique, fonctionnement, fonction sociale et culturelle.
Oui, tout à fait. Mon sujet, c'est pour comprendre comment les parures, les bijoux de la fin du néolithique, ils ont été fabriqués, comment ils ont été portés et quelle signification on peut en tirer. Est-ce que c'est plutôt lié à une classe d'âge, plutôt lié à un sexe ou peut-être lié à un statut social particulier dans la société. Et ces bijoux, on les trouve notamment dans des sépultures, dans des tombes et notamment dans des dolmens. Donc c'est
Qu'est-ce que le dolmen?
Alors le dolmen, c'est des tombes mégalithiques, donc faites avec des grosses pierres qu'on retrouve à la fin du néolithique. Alors les premiers dolmens, ils datent du néolithique moyen, autour de 4500 avant Jésus-Christ. Et on en retrouve, ils sont utilisés jusqu'à la fin du néolithique, même au début de l'âge de bronze pour certains. Et ils sont avec de différentes formes, souvent un peu longilignes, avec des chambres funéraires plus ou moins longues. On va déposer les corps au fur et à mesure des morts. Voilà. Qui peuvent être utilisés pendant des centaines d'années, plusieurs siècles.
Pourquoi ce choix d'étude?
Alors, moi, je travaille sur les bijoux. Alors, pourquoi les bijoux? Eh bien, je trouvais que c'est un sujet assez intéressant puisqu'on peut aborder à la fois justement les questions de techniques de fabrication. Ça nous renseigne aussi sur des échanges assez lointains. J'ai des matières premières qui viennent d'Espagne, qu'on retrouve dans le sud de la France, donc des distances assez longues. Donc, se demander pourquoi, comment ils ont voyagé ces bijoux, et puis voilà, aussi pour travailler sur la personne, puisque les bijoux, c'est quand même des objets qui sont individuels, hein, généralement, qu'on retrouve sur les personnes, et pour en connaître un peu plus là-dessus.
Il y a différentes symboliques.
Il y a différentes symboliques, oui, aussi.
Alors, ton travail au sein de ces rencontres, dis-nous un petit peu ton ressenti, ton regard sur la journée, ces journées nationales de l'archéologie, ce village au sein de ce bâtiment.
Ouais. Eh bien... c'est des chouettes rencontres, comme tous les ans. Moi, j'aime beaucoup rencontrer le public, notamment les enfants. Ils sont très intéressés, ils me posent plein de questions très intéressantes. Et en fait, ils savent plein de choses aussi déjà. Donc, c'est l'occasion de compléter, mettre en valeur ce qu'ils savent déjà. Et le lieu est très chouette. C'est l'occasion aussi de voir un peu plus les autres ateliers, notamment que les années précédentes, on était un peu séparés. Là, on peut vraiment voir les ateliers de l'INRAP, notamment. Donc, je trouve que le cadre est aussi chouette.
À quel endroit on peut retrouver ton travail?
Alors, l'atelier, il est dans le village de l'archéologie. C'est la reconstitution des dolmens. Donc, on peut apprendre à construire un dolmen et différentes parties d'un dolmen. Et voilà, dans le village de l'atelier.
Merci. On va passer à un autre intervenant juste à côté. C'est Adrien, c'est ça?
C'est ça.
Ton nom de famille?
Reggio.
Reggio. Alors raconte-nous un petit peu ta mission au sein de ces journées, de ce bâtiment, puisque tu travailles aussi avec Océane Laroche, j'ai vu.
C'est ça, avec Océane Laroche et Alix Guibaud, qui tiennent avec moi le stand sur les outils préhistoriques. Donc on propose en fait une présentation, donc comment est-ce que d'un outil, on arrive à partir d'un caillou, on arrive à un arc, à une hache, etc. Donc on a tout un tas d'objets préhistoriques qui sont reconstitués, dont on peut montrer l'utilisation. Et ça permet aux gens de ne plus voir seulement un caillou dans une vitrine, mais de voir l'objet en entier. Et on essaye de leur expliquer comment, à partir de ces objets, on va pouvoir étudier les interactions sociales entre les groupes préhistoriques.
Et donc, quelles sont les principales questions du public?
Alors, les principales questions, c'est d'où viennent les matières, parce qu'ils voient plusieurs roches. Ça, c'est une question qui revient souvent. Et la question du commerce, à l'époque. La plupart des gens imaginent qu'à la préhistoire, c'était des tout petits groupes qui vivaient chacun un peu de leur côté. Et justement, à travers l'étude de l'échange des matières premières, on s'aperçoit qu'il y avait un commerce qui était déjà très développé. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le public.
Océane Laroche travaille sur l'Afrique du Nord notamment.
C'est ça, elle travaille sur l'Afrique du Nord. Alice Guibaud, lui, travaille sur le sud de la France. Et moi aussi, je travaille sur le sud de la France.
Et on peut retrouver donc vos travaux sur Internet ?
Oui, c'est sur le site du RIMPEA. En tapant sur Google, on arrive dessus. Et... Voilà.
Merci beaucoup. On va passer à Laetitia Cavassa.
Bonjour.
Bonjour. Donc ingénieur d'études CNRS, archéologue spécialisé dans l'étude de la céramique antique.
C'est ça.
Depuis 2012, avec un travail sur le programme de recherche sur la production de la céramique à Pompéi, oui, plus particulièrement. Et donc raconte-nous ta mission au sein de ces journées et au-delà, bien sûr. Au-delà.
Non, alors du coup, oui, depuis 2012, je travaille plus précisément sur un projet de recherche à Pompéi qui s'intéresse aux ateliers de potiers. Et à la production céramique du coup dans cette ville, dans cette cité antique, avec la reprise et la fouille des deux seuls ateliers actuellement connus pour avoir fonctionné au moment de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Donc on a repris la fouille de ces deux ateliers et qui avaient déjà été découverts. Il y en a un qui avait été découvert au 19e siècle et l'autre à la fin des années 50, mais qui n'avait pas été totalement étudié et fouillé.
C'est des vrais choix là, qu'on fait au niveau national, au niveau des différents centres de recherche, oui, de relancer des recherches à tel endroit plutôt qu'à tel autre, parce que finalement, on pourrait chercher partout.
Alors, oui, alors là, ça s'insère dans un programme plus large et bien précis, parce qu'en fait, avant de travailler au centre Camille Julien, je travaillais au centre Jean Bérard, qui est un laboratoire du CNRS basé à Naples.
Chacun a sa stratégie, sa vision de...
En fait, chaque laboratoire aussi a son approche bien particulière et ses programmes de recherche. Et le point commun entre le centre Jean Bérard et le centre Camille Julien, entre autres, c'est d'avoir des programmes tournés sur l'artisanat antique. Et donc, particulièrement à Naples, on avait un programme de recherche sur l'artisanat en Italie du Sud et plus particulièrement à Pompéi. Donc, ça a permis... à plusieurs collaborateurs du laboratoire ou chercheurs de faire des recherches bien précises sur un métier. Et du coup, moi, étant liée à ces problématiques, j'ai pu développer un programme de recherche sur la production céramique, puisque c'est aussi mon activité au quotidien d'étudier la céramique issue des fouilles de mon labo.
On continue à en apprendre de plus en plus au fil du temps, on continue à fouiller à Pompéi, à
Naples. Oui, bien sûr. Du coup, là, dans notre cas...
De nouvelles découvertes,
oui,
encore.
Dans notre cas bien précis, on a repris la fouille de lieux anciennement dégagés, parce qu'on n'a pas dégagé des niveaux de l'éruption, mais on a repris des fouilles. Et ça nous a permis de voir ce qui n'avait pas été vu au 19e siècle, par exemple, parce que l'artisanat, ce n'était pas forcément l'angle de recherche à cette période-là. Et du coup, nous, on a pu reconstituer toute une partie de la chaîne opératoire des potiers depuis l'arrivée de l'argile dans les ateliers jusqu'à la vente des vases. Donc en découvrant notamment des tours de potiers ou des vases crus donc, qui n'avaient jamais été... vu ni compris, qui avait été déposé par les potiers en attente d'être cuit et puis scellé par l'éruption du Vésuve. Donc ça nous a permis de documenter et de comprendre ces différentes étapes de travail.
Le rapport avec le public pendant ces journées ?
Aujourd'hui, alors du coup, nous, donc je suis accompagnée de deux doctorantes du centre Camille Julien, donc Marie Pavlovitch et Émilie Manocci. Et puis on est aussi accompagnée, c'est un atelier qui a deux sous-activités, on va dire deux activités, parce qu'on est lié aussi à la présence d'une potière qui s'appelle Geneviève Doya, qui travaille à Lambesc. Et donc on propose une activité autour des ateliers de potiers, et entre autres on propose au public de venir fouiller une partie de ce que nous avons fouillé nous. On a créé un bac à fouilles dédié à une partie bien précise de l'atelier de potiers. Alors si j'en dis trop, il n'y aura plus de suspense. Du coup voilà, on les remet en condition d'un élément bien précis de l'étape de travail des potiers, en leur faisant découvrir ce qu'on a, nous, trouvé comme élément, et puis pour essayer de montrer aussi tout le cheminement des idées pour arriver à partir de traces fugaces dans le sol à reconstituer un objet bien précis. Mmh. Parce que ça s'accompagne aussi d'une reconstitution de ce moment bien précis. Et puis ensuite, les gens peuvent aller travailler avec Geneviève pour faire un vase.
Alors la motivation principale pour continuer à chercher dans ce domaine, quelle est-elle ?
L'approche en particulier, c'est au-delà d'étudier toutes les céramiques qu'on trouve sur le terrain, c'est de comprendre comment les objets sont fabriqués. Et du coup, moi, mon leitmotiv, en tout cas, c'était cette partie-là, c'est de me familiariser avec les gestes des potiers, de les comprendre et de les maîtriser.
Le processus de fabrication, on ne l'avait pas entièrement compris jusqu'ici.
Par exemple, à Pompéi, les fouilles qu'on a pu réaliser ont permis de découvrir des tours de potiers qui n'avaient jamais été vus jusqu'à présent. à Pompéi en tout cas. Donc nous, ça a été ça nous a permis de compléter des données qu'on ne connaissait qu'à travers la présence d'un four, par exemple, et pas d'autres éléments bien précis.
Merci. On retrouve vos travaux à quel endroit ?
Bien un peu relayé, pareil, par le site du Centre Camille Julien ou du Centre Jean Bérard. Voilà.
Sylvie, je te redonne la parole pour nous présenter les autres intervenants qui sont présents pour nous dire un petit mot. Et puis, tu vas nous parler aussi des 80 ans du CNRS.
Oui, en effet. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a dit que cette manifestation était labellisée « Année de la gastronomie ». Mais alors, c'est vraiment l'année des labels parce que cette année, en 2019, nous fêtons les 80 ans du CNRS. Les Journées nationales de l'archéologie de Marseille 2019 sont donc placées, elles aussi, sous le signe des 80 ans du CNRS. Alors, à cet égard, je voulais préciser que nous avons encore un nouveau label, toujours pour cette édition 2019. C'est le festival Jeux de Loi, qui est la première édition du festival mis en place par Aix-Marseille Université. Il s'agit du festival Jeux de Loi, les sciences de la société et les arts dans la cité, qui va connaître un temps fort d'ailleurs du 19 au 22 juin, hein, dans les prochains jours. C'est donc une première édition. Et voilà, et j'invite le public très largement à suivre ce festival, toutes les informations étant sur le site d'AMU, sur le site de la MMSH, etc. Donc ce temps fort va être consacré au thème « Comment penser notre société par le jeu ?» avec des tables rondes, des ateliers, des spectacles autour de la thématique du jeu. Et puis le jeu, bah, c'est aussi un peu le fil conducteur des JNA, puisque ces ateliers sont tous conçus dans un format qui se veut ludique. On l'a montré, je pense, donc j'invite largement le public à venir demain. Et puis, là, on va peut-être conclure avec, ça serait peut-être pas mal qu'on ait un petit dialogue entre chercheurs des différents établissements. Hein. Je pense à Nicolas qui nous a rejoint de l'INRAP. Voilà.
Bonsoir.
Et qui pourra dialoguer peut-être voilà, quelques instants avec Laetitia.
Oui, tout à fait.
Avec Estelle.
Je vais parler un petit peu aussi de ce qu'on a à peine évoqué tout à l'heure, qui est l'archéologie préventive. Dire que les Journées nationales de l'archéologie, bon, évidemment, c'est sous l'égide de l'INRAP, c'est en partenariat avec la MMSH, entre autres choses. Mais c'est aussi pour nous, archéologues du préventif, l'occasion de parler un peu de ce qui s'est passé récemment, alors on va dire ici à Marseille, ou ce qui se passe en ce moment à Marseille, ou ce qui se passe dans le département ou en Provence. Et c'est donc l'occasion d'aller de montrer au public ce qu'on n'a pas trop la possibilité de faire en temps normal, c'est-à-dire de parler de la recherche vivante, de la recherche en cours, puisque l'archéologie, ce n'est pas un métier de vieille personne croulante ou d'Indiana Jones. D'ailleurs, je crois qu'autour de cette table, on est plutôt pas dans cette catégorie-là. Mais c'est un métier qui est un métier en pleine mutation et qui est un métier totalement vivant, qui est un métier de passionné, oui, souvent, mais qui est avant tout un métier, voilà, donc qui demande un savoir-faire, et je crois qu'on est tous là pour en parler.
Ok, Qu'est-ce que vous auriez envie de partager par rapport à justement ces journées nationales de l'archéologie? C'est une fois par an. Les principaux buts et votre regard sur ce que vous avez pu vivre.
Ce qui est bien avec les journées nationales de l'archéologie, c'est que ça donne effectivement l'occasion de rencontrer des collègues ici de la MMSH, mais pas uniquement de la MMSH. Alors ça nous arrive en réalité, on va dire, trois fois par an, parce qu'il y a aussi des journées de patrimoine.
Nous, on est
sur nos chantiers. Voilà, il y a donc les journées, il y a en plus des JNA, il y a les journées du patrimoine et la fête de la science où on a l'occasion de se retrouver assez régulièrement. Donc on a trois fois par an, on a un peu l'occasion de retrouver des collègues ou de découvrir de nouveaux collègues. On disait la tête dans le guidon, on a un petit peu la tête dans le guidon aussi sur les stands, donc ce qui fait qu'on n'a pas trop le temps souvent de passer d'un stand à l'autre. Même, c'est parfois un peu compliqué. Mais malgré tout, on y arrive et donc voilà, on se tient au courant de ce qui se passe un petit peu dans les sphères. J'allais dire, c'est pas une moquerie, pas du tout, dans les sphères pensantes. Et puis nous, de dire un peu ce qu'on fait sans moquerie, avec les deux pieds dans la boue, en fait, parce que c'est un peu les deux extrêmes.
On disait la tête dans le guidon pour la recherche pure. Il y a la pédagogie et puis la communication au sein des spécialistes dans des revues spécialisées. Et puis il y a la pédagogie et la communication au public.
La différence qu'il y a entre nous, c'est que vous n'êtes pas tout le temps sur le terrain. Nous, on essaye de se trouver des moments où on essaye de ne pas être sur le terrain parce que ce n'est pas évident. À l'INRAP, on passe un petit peu notre temps dehors, un peu beaucoup d'ailleurs parfois. Si on doit parler de Marseille, c'est tout le temps. Il y a tout le temps de l'aménagement qui est fait à Marseille. On le voit d'ailleurs en ce moment avec les aménagements qui sont faits autour de Vieux-Port. Ou le réaménagement de la corne du port, donc ce qu'on appelle le projet du port antique au musée d'histoire de Marseille. Et même ça, c'est l'occasion de pouvoir effectuer des surveillances archéologiques. Donc c'est nous, à l'INRAP, qui nous en occupons la plupart du temps, et ce qui nous permet de recueillir de nouvelles données, parce qu'on va voir à des endroits où on n'avait pas pu regarder auparavant, et ce qui permet aussi de nourrir nos collègues de la MMSH, par exemple, ou du CNRS, en apportant, nous, nos données de fouilles qu'on n'a pas toujours le temps de pouvoir travailler d'une manière très approfondie, trop approfondie. On n'y arrive pas. On passe trop souvent d'un chantier à un autre. Et c'est là où, justement, nos collègues du CNRS ou des universités font un travail qui est fondamental et qui...
Pour compléter, approfondir.
Je crois que c'est ça, surtout.
Estelle veut rebondir, justement, ce que tu viens de dire.
Oui.
Oui, je vais profiter de ce qui vient juste d'être dit pour effectivement dire que l'intérêt aussi de ces journées nationales de l'archéologie, c'est de montrer en fait l'ensemble de la chaîne opératoire qui intervient dans l'archéologie, c'est-à-dire du terrain jusqu'au laboratoire. Donc là, ça a très bien été illustré par l'INRAP, qui effectivement est un gros fournisseur, entre guillemets, de données primaires et qui sont essentielles et indispensables à l'ensemble des disciplines qui sont menées dans nos laboratoires. Où on devient finalement, quand on est recruté au CNRS ou à l'université, sur des domaines très pointus, et moi je l'illustre très bien dans mes recherches, où c'est vraiment l'approche biogéochimie, isotopique, des ossements, etc. Mais s'il n'y a personne qui va fouiller des nouveaux sites archéologiques, qui fait des nouvelles découvertes, nous ne pouvons pas travailler en laboratoire. Donc c'est vrai que passer cette étape de terrain, il va commencer à y avoir toute une prospective qui va se mettre en place sur les thématiques de recherche qui peuvent émerger et qui sont souvent en adéquation complète avec les problématiques qui sont élaborées dans les laboratoires. Et puis, c'est là qu'on peut aller plus loin et rebondir sur des nouvelles questions. Donc, c'est vraiment un travail fondamental de collaboration et qui permet effectivement de mettre en lumière l'ensemble des disciplines, puisque typiquement au laboratoire de préhistoire, nous sommes vraiment pluridisciplinaires avec des géomorphologues, des gens qui s'intéressent également à la faune, des gens qui vont s'intéresser plutôt aux humains dans leur comportement, en rapport avec l'alimentation, ces modes de vie particuliers, mais également aussi, on peut aller jusqu'à de la modélisation démographique, génétique, et puis également l'aspect culturel avec tout l'ensemble des productions humaines, donc qui vont des outils taillés, qui vont également à la parure, vous l'a montré très bien Laurine, et puis également ce qu'a illustré Laetitia avec ses ateliers de potier. Et donc on peut peut-être passer la parole également à une des doctorantes du CCJ.
Donc c'est Marie Polovics.
Et donc qui présente là aussi une particularité de l'archéologie, donc je vais lui laisser la parole.
lasciassi fe e non te sottoi di a un concucara cotoni tascia chi la si ricipri umanura tua lì umanura tua lì.
Marie, tu fais une thèse sous contrat école doctorale CCJ avec le directeur Michel Bonifay et Marie-Brigitte Carr sur le port antique de Marseille à partir des fouilles de la Bourse à Marseille, justement. Parle-nous-en.
Oui, justement, et pour rebondir sur ce travail de collaboration entre les différentes institutions de l'archéologie, donc je débute une première année de thèse sur justement le secteur portuaire de Marseille à l'époque romaine, et essayer de comprendre l'activité commerciale de Marseille à cette époque. Et justement, dans ce cadre-là... Moi, je viens d'une formation céramologique, certes, mais je m'intéresse vraiment au contexte et pour cela aux différentes sources et la reprise du contexte de la bourse en lien avec la requalification du jardin dont vous parliez juste avant a amené à de nouvelles opérations de terrain où justement l'INRAP, la MMSH, le Centre Camille Juan, le CNRS ont travaillé ensemble puisque j'ai pu justement mener une campagne de nouvelles investigations sur le terrain grâce justement aux surveillances de terrain faites par l'INRAP.
Et en l'occurrence, par Philippe Mélinan, d'ailleurs. On va le citer parce que c'est quand même quelqu'un de très important à Marseille.
Exactement.
Pour l'INRAP, c'est quelqu'un... Bon, c'est un copain, certes, mais c'est quelqu'un qui est très important. Il a fait quand même pas mal de chantiers. Et alors là, il s'occupe de cette surveillance-là.
Et
c'est
qui
pas pour
a
rien.
Été très présent, d'ailleurs, pendant les recherches qu'on a menées en décembre et en mars, où justement, on a pu faire des carottages géomorphologiques. Donc, on parlait d'interdisciplinarité. Moi, j'étudie les objets qui étaient retrouvés dans la corne du port, mais il y a une approche aussi environnementale. Et il y a toute une étude géomorphologique qui va être faite grâce à ces carottages. Et Philippe Mélinan a participé participé à... il a donné de l'huile de coude, quoi. Il nous a aidés sur le terrain, donc voilà.
Quand on dit carottage, c'est oui, exploration du sol, comme on fait du carottage en Antarctique.
En fait, le site est destiné à être visitable au public. Et donc, on ne peut pas fouiller. On ne peut pas revenir sur les fouilles, justement. Et l'idée, c'était de mieux connaître le centre de la Darse, qui n'a jamais été fouillé, finalement, par des investigations non intrusives. Donc, on a réalisé toute une série d'investigations géophysiques, donc là c'est pas du tout destructeur, pour essayer de voir s'il y avait des anomalies et s'il y avait des vestiges qu'on pouvait identifier, justement. Et ensuite on a réalisé toute une série de carottages, donc là c'est on investit le sol sur un diamètre de 10 cm en profondeur.
À quelle profondeur?
Là on est allé jusqu'à 5 mètres, donc le sol géologique du fond de la Darse.
Quel type d'objet trouve-t-on?
Alors là, on n'a pas trouvé d'objet. Justement, l'objet, c'est le sédiment, quelque part, en fait, qui est une information aussi, puisqu'il va être analysé. Et tous ces sédiments, en fait, on va pouvoir savoir si le milieu était plus ou moins salé, si le milieu était plus ou moins ouvert. On peut avoir des datations C14 aussi. Donc, ils vont pouvoir être confrontés avec la céramique. Donc, vraiment, toute une évolution, là, du paysage portuaire, et justement les objets vont permettre de savoir aussi les activités qui s'y déroulaient. Donc voilà, c'est vraiment confronter le plus de données possible pour approcher au mieux l'histoire de ce port à l'époque romaine.
Et du coup, il y a une complémentarité,
voilà.
Il y a un déclencheur finalement avec l'INRAP qui déclenche préventivement des opportunités de fouiller. Et puis les chercheurs vont approfondir et développer les recherches à partir de là.
Hein. Oh oui, c'est exactement. En fait, c'est exactement ça.
À partir de l'aménagement du territoire.
Nous, qui que ce soit sur cette table, on n'a pas pour but d'empêcher l'aménagement du territoire. Tout à l'heure, Laure parlait de, en fait, que les travaux d'archéologie préventive étaient, et d'ailleurs c'est ce que tu disais aussi, étaient essentiellement liés à des grands travaux, mais en fait non, ça peut être aussi lié à de l'aménagement particulier. Ça peut être quelqu'un qui veut construire sa maison, qui veut faire une piscine. Si cette personne-là se trouve dans un lieu qui est archéologiquement sensible, comme on le dit,
Qui peut faire appel à l'INRAP.
Oui, n'importe qui peut. De toute façon, le permis de construire va passer en préfecture, donc va être passé au niveau du service régional d'archéologie qui va émettre ou pas un avis de prescription de diagnostic archéologique. Donc là, c'est nous qui allons aller voir avec une pelle mécanique, faire une tranchée, deux ou beaucoup, pour voir si quelque chose risque d'être détruit ou pas. Et c'est à partir de là que. Qu'on peut, si on trouve quelque chose d'intéressant, et c'est toujours l'État qui dit si c'est intéressant ou pas, qu'on va mettre en place une fouille archéologique. Alors, qui va être de plus ou moins grande importance. Hein,
c'est les choix du ministère, quoi.
Oui, c'est les choix c'est les choix du ministère via le service, les DRAC, les directions régionales d'action culturelle. Voilà. Et après, ce sera ou l'INRAP ou un opérateur privé qui interviendra. S'il y a quelque chose d'intéressant et si une fouille est déclenchée. Mais effectivement, ça peut être une fouille soit sur des très grands aménagements. Là, ça va être le cas la semaine prochaine à Berlétang où on va commencer une fouille sur l'installation d'un pipeline de géostock. Donc c'est vraiment un tracé de 9 km de long dont on va fouiller un tout petit morceau. Mais ça peut être aussi un aménagement chez un particulier. Je crois qu'à Lens en ce moment.
Ça a été le cas là en Corse.
Oui, aussi. Ah, oui.
Du côté de la Majone où effectivement on a retrouvé un hypogée étrusque.
Extraordinaire.
Extraordinaire.
Qu'est-ce que c'est, pardon?
C'est une tombe, une hypogée, c'est une tombe enterrée en fait. Enfin, une tombe avec un couloir d'accès. C'est un peu proche du dolmen dont on parlait tout à l'heure, mais avec une forme un peu différente dans la mesure où on aurait un dolmen avec une chambre funéraire qui serait recouvert de terre.
On a trouvé
une crypte
en
fait, on va dire.
En Corse, tout
à quelle occasion?
À l'occasion, me semble-t-il, justement d'un aménagement particulier.
Chez un particulier.
Donc effectivement, ça ne touche pas, comme le dit Nicolas, simplement les grands aménagements du territoire, type autoroute, construction d'écoles ou voies ferrées,
oui.
pour ce qu'on connaît le plus, tout type d'aménagement.
Une entreprise, une société ou un particulier.
Voilà.
Et là donc. Justement, cette hypogée étrusque qui a été trouvée en Corse, Il est évident que nous, au niveau de l'INRAP, quand bien même nous avons des anthropologues confirmés, quand bien même nous avons des gens qui sont quand même versés dans les études au niveau de l'Étrurie, on n'est pas capable d'étudier finement ce genre de site. Donc nécessairement, on va faire appel à nos collègues. On appelle les collègues, on leur dit ouais, est-ce que t'as pas, on a trouvé tel truc, ça te dit quelque chose. Et puis voilà, ensuite on va lancer un partenariat
plus loin
pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on a trouvé en fait grâce à l'archéologie préventive. Donc finalement, grâce à l'aménagement du territoire.
Très bien, mais je vous remercie tous. Je vais repasser le micro à Sylvie. Dernier mot de cette émission. Te remercier à nouveau d'avoir invité toutes ces personnalités pour nous faire découvrir leur travail.
Le dernier mot, c'est pour inviter le public à venir très 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 nombreux encore demain dimanche, soit au village de l'archéologie au centre de la Vieille Charité, soit sur l'un des nombreux sites des Journées Nationales de l'Archéologie, soit encore au Vieux-Port pour admirer et découvrir le Gyptis. Voilà. Et bon, voilà. Et venez, profitez-en parce que une fois par an, c'est vraiment une manifestation qui vaut le déplacement. Et puis revenez nous voir ensuite en octobre pour la fête de la science, notamment au MUCEM le 10 octobre, où nous organiserons une très grande manifestation pour la fête de la science et les 80 ans du CNRS à nouveau. Voilà. Merci beaucoup et à demain.
Le 38e numéro de Mare Nostrum, réalisé avec la collaboration essentielle du MAG et de Fabrice, et en partenariat avec le service de communication de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix et sa responsable Sylvie Laurence. Cette émission a été enregistrée au Musée de la Vieille Charité à Marseille à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie 2019. Forward, 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 my sister.